Ok, le Rav Kouk père, il arrive en Eretz Israël en 1904. Ok, Rav Kouk père, il arrive en Eretz Israël en 1904. Quel mois, quel jour, vous savez?
Non.
Alors, je vais vous dire, c'est Kafret Ia. Kafret Ia. Qu'est-ce que ça vous rappelle au café Cafretia?
Ah, c'est le 15 hier, c'est bah c'est
Le 28 hier. Cafretia, c'est le 28 hier.
non.
C'est le Yom Yerushalayim. C'est le Yom Yerushalayim. Non, qu'est-ce qui est fou? C'est que le Rav Kouk, fils, celui qu'on a vu hier, celui qu'on a parlé hier, qui a dit Yerushalayim, etc. Il se pose la question, il dit, mais comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu nous a ramenés en Eretz Israël, puisqu'il est monté avec son père, il nous a ramenés en Eretz Israël à cette date. Comment c'est qu'il nous a ramenés à cette date? Cette date, elle doit être tout à fait particulière. Et en effet, en 1967, le Kafret Iyar, on a le Rav Kouk, et on a le Kafret Iyar, la date à laquelle le Rav Kouk a fait son aliyah, c'est la libération de Yerushalayim. Ok, tout est en rapport. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi le lien par rapport à ça? Attendez, hier, j'ai montré. C'est à vous, on a vu ça, je sais. On a vu le Rav Kouk, le père?
Oui. Okay.
Le père, on a vu ou pas? Oh, zut! Attendez 2 secondes, 2 secondes, on va voir tout de suite. Non, on va pas voir tout de suite. Bon, en tout cas, donc c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que... Ah, dommage. Secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ok, maintenant regardez. Quand le Rav Kouk monte en Eretz Israël, lui, il monte au Kafret Yar. Où est-ce qu'il va être? Il va être à la ville de Yafo. Qui c'est qui est à la ville de Yafo? Il y a des gens qui sont modernes comme ça. Yafo, c'est la ville et en train de se construire une nouvelle shkouna. Vous savez, c'est quoi le nouveau Shrouna, le nouveau quartier de Yafo? Comment ça s'appelle? Tel Aviv. Tel Aviv, c'est le nouveau quartier de Yafo. Tel Aviv, c'est mamache dans le sable, il n'y a pas de ville là-bas, il n'y a rien, il y a tout en train en construction. Maintenant, le Rav Kouk, il avait accepté de monter en Israël pour être le grand rabbin de Yafo parce que là-bas se passait le renouveau d'Israël au niveau culturel, etc. Ça ne se passait pas à Jérusalem, ça ne se passait pas à Tveria, ça ne se passait pas à la Tzfat, ça se passait d'Afka à Yafo. Yafo de l'époque, c'est comme Tel Aviv d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il va devenir grand rabbin de Yafo. Maintenant, lui, il va parler de manière très claire. En 1904, la date de son aliyah, qui c'est qui va mourir? Il va mourir Binyamin Zeev Herzl. C'est lui qui va mourir. En mourant, le Rav Kouk, il va écrire un hesped, une oraison funèbre sur Herzl. Il va dire, pourquoi il va mourir, Herzl? Tu sais pourquoi il va mourir? D'après ses proches, il va mourir parce que il va mourir de tristesse. De quoi? Pourquoi il va mourir de tristesse? Allez, aidez-moi.
En 1904, de tristesse.
Ouais.
Il n'y a pas d'État? Bah
Il n'y
ouais.
a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Ça le fait souffrir. Mais qu'est-ce qu'il a fait terriblement souffrir? C'est que M. Binyamin Herzl, il a proposé l'Ouganda comme État d'Israël. S'il avait une possibilité de faire un État d'Israël en Ouganda. Vous serez allé, vous, à l'Ouganda, vous?
Non.
Ça n'est pas allé, d'accord? Le jour où il propose ça aux congressionnistes, il arrive et il dit, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. on m'a proposé de faire un État d'Israël à Lubumba. Vous aurez accepté ou pas?
Non.
Non.
Tu aurais accepté?
Non.
Là, moi non plus, je n'aurais pas accepté. Mais Herzl, il ne comprend pas ça. On a la possibilité. Qu'est-ce qu'il vit, Herzl? Il vit, il voit la Shoah en 1904. Il voit qu'il va avoir une Shoah en Europe. Que les Juifs qui sont en Europe, ils vont souffrir. Ça marche. Il voit que les Juifs en Europe, ils vont souffrir. Pour les sauver, la seule solution, c'est l'Ouganda. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de les faire emmener en Ouganda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aux congressionnistes? Les Juifs religieux, ils déchirent leurs vêtements en signe de deuil. Ils déchirent leurs vêtements. Ils font quoi? On n'est pas retourné en Israël pour partir en Ouganda. Maintenant, vous allez me donner la chita de Herzl. C'est quoi sa chita à Herzl? C'est quoi sa pensée? C'est quoi son but? Sharon, Dina, Shalom. C'est quoi son but?
Son but, c'est de sauver les Juifs.
Sauver les
Juifs. C'est la sécurité.
Sauver quoi des Juifs?
Un peuple, une nation, pas forcément.
Sauver quoi des Juifs? Le corps, le bassard, la chair et le sang. Sauver des Juifs.
C'est le peuple.
Non, un bon sentiment, c'est une bonne action. Bétard, c'est un tzadique. Il veut sauver des Juifs. Le maximum de Juifs. Et il voit que l'Europe, ça va être le cimetière des Juifs. Il a eu raison. Derragav, les gens, ils critiquent Herzl. Des fois, il y a des petits rabbins qui critiquent Herzl. Mais ce Herzl a vu ce que des grands rabbinim n'ont pas vu. Il faut être conscient de ça. Herzl, il a vu des choses que des grands rabbinim n'ont pas vu. Il voulait sauver les Juifs. Hazak. Il va mourir parce que les Juifs ne veulent pas ça. Et lui, il voit que ça fait 430 ans ou 420 ans que l'Empire ottoman, il est ici. Et jamais ils vont nous donner un État pour l'instant. Si on veut tout de suite un État, c'est à l'Ouganda que ça se passe. Allez, faites les valises, quittez le vieux port, direction l'Ouganda. C'est-à-dire? Maintenant, regardez, le problème, il est comme ça. Le Rav Kook, lui, va dire Binyamin Zev Herzl, c'est le Mashiach Ben Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dit ça comme ça. Il dit il est dans le processus du Mashiach Ben Yosef. C'est quoi le Mashiach Ben Yosef? Allez, Mahonora. On vous l'a répété 1500 fois. Donc vous savez, c'est quoi Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David? Il y a deux Mashiach.
Mashiach Ben Yosef, il prépare l'arrivée de Mashiach Ben David.
Il a fait. De quelle manière il prépare l'arrivée de Mashiach Ben David?
En préparant, en faisant les guerres.
Faisant des guerres. C'est quoi son tarkit? C'est quoi son rôle? C'est quoi son business, hein, ma chère Ben Yosef? Business d'Akavana. Dans quoi il est fort, Yosef?
Il va ramener les Juifs en Israël.
Ramener en Eretz Israël. Alors, marquez, Yosef, ça vient du mot l'Esof. C'est quoi l'Esof?
Assembler.
Rassembler, bien fait. Rassembler. Donc, Yosef ou Osef? Facile. Yosef, il est Osef, il rassemble. Donc, il a cette force de rassemblement du peuple. Il a hérité de ça de sa mère, de Rachel, qu'elle est la mère d'Israël. La mère, elle veut tous ses enfants à la maison. OK? Et ça, c'est Yosef. Maintenant, qu'est-ce que tu le vois, Yosef? Il est en Égypte, lui. Alors, quel rapport avec Israël? Mais Yosef, il se bat pour que ses frères soient protégés. Endroit à Goshen et pas en Égypte même. Non, ils ne soient pas mélangés en Égypte. Ils sont rassemblés. Il leur dit, il sait diriger un pays, Yosef. Il sait diriger une économie, Yosef. Yosef, il est celui qui va réparer le Ramazé, réparer le monde ici-bas, le monde matériel. Ça, c'est Yosef. Donc, Mashiach ben Yosef, ça serait à comparer. Dans le corps humain, par exemple, il y a le corps et l'âme. C'est plutôt le côté corps ou le côté âme?
Le corps.
Le corps. Il a fait mode. Pessah Shavuot. Pessah, c'est le corps ou c'est l'âme?
C'est le corps.
Le corps.
C'est le corps. Donnez-moi une preuve que c'est le corps. C'est l'importance de la naissance du corps de la nation d'Israël, du corps d'Israël. Donnez-moi une preuve.
Ben, c'est à partir de là où on est devenu une nation.
On est devenu une nation, mais prouve-moi que ce n'est pas l'âme. Prouve-moi que ce n'est pas la partie spirituelle.
Bah, parce qu'on fait un céder où on mange, etc. Donc c'est...
Oh, pas mal, bien fait. C'est-à-dire qu'on mange des choses, on met en avant le côté de la nourriture, mais céder, mais à quel niveau de degré de spiritualité on était? À Pessah, constant d'Égypte. On est des sadikim?
Non, pas du tout.
On est au 49e degré d'impureté. Au niveau spirituel, on est au plus bas. Il y a des sadikim, mais les robes du Ham Israël, ils sont au plus bas. Pire que ça, 80 du Ham Israël, ils voulaient rester en Égypte. On se rendait compte, 80% du Ham Israël voulaient rester en Égypte. Donc c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui naît seulement, c'est une nation. Ça, oui. On a fait, on est sorti de l'Égypte. L'Égypte, elle est tombée face à nous dans la mer des gens. Ok, Yam Souf. Super. Donc, on a une force au niveau national. Est-ce qu'on a une force spirituelle? Non. Ça viendra seulement à Shavuot. Mais non. Pessah, c'est le côté du corps du Ham Israël, du gouffre. Shavuot, c'est Matan Torah, c'est le côté de l'âme d'Israël. On reçoit l'âme d'Israël à Shavuot. C'est Matan Torah. C'est quoi Kabbalat Torah? La Torah, c'est l'âme d'Israël. La fait. Maintenant, je vous pose la question. Yom Atzmaout et Yom Yerushalayim. Quelle date c'est Yom Atzmaout?
5 Iyar.
Hebe Iyar, le 5 Iyar. C'est quand Yom Yerushalayim? Jeudi soir, là, c'est ce jeudi soir. C'est quelle date? Merci. On vient de le dire. Kafret Iyar. Kohar chez l'IA, la force de l'IA. Placez-moi, Yom Atzmaout et Yom Yerushalayim. Qu'est-ce qui est Homer? Qu'est-ce qui est Ruach? Qu'est-ce qui est matérialité? Qu'est-ce qui est spirituel? Yom Atzmaout, c'est spirituel, c'est matériel. On trouve une nation, on trouve un peuple, on trouve un état, on retrouve une politique, etc. Sauf, on redevient comme à Pessah. Et Kafret, IA, Yerushalayim, Yom Yerushalayim, déjà, on pense au Beth Amikdash, on pense à la reconstruction du temple, on arrive à Jérusalem, on arrive dans notre ville où on était, même les Red Kohanim, on était la nation de prêtres, on parle des korbanot, des sacrifices spirituels de Roshalim, qui Beti Betefila Ikaré le Kolamim, c'est la maison de la Tfila, c'est là où on va prier, le Kotel, on se rattache à Hachem, c'est le Makom de la Shrina, c'est le Makom du Kodesh HaKodashim. Donc, c'est plus rattaché à Shavuot. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est comme ça que ça se sépare. On a Pessah Yom Atzmaout, Yom Yerushalayim et Shavuot. Maintenant, quelle est la bracha que les hommes font? Vous faites ça tous les matins. Mais quand un homme il monte à la Torah, quelle bracha il fait? La dernière fois que vous êtes monté à la Torah, qu'est-ce que vous avez fait comme bracha?
Noter la Torah, non?
Enfin, quand un homme il monte à la Torah, Bruchat Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher. Vous dites tous les mots. Asher. Bachar banu mikol ha'amim. Venatan la Torah. Tov, Bruchat Hashem noten la Torah. Quel rapport avec Pessah et Shavuot?
Shavuot, on reçoit la Torah.
D'accord, mais avec Pessah et Shavuot, quel rapport?
Dans la phrase, dans la bracha.
Bien fait. Qu'est-ce qui a marqué?
Il nous a choisi.
Asher bachar banu mikol ha'amim.
Qui nous a choisi par le peuple, donc ça c'est matériel.
Bien fait, c'est Pessah. Asher Bacharban Nicolas Amim, c'est Pessah. Il nous a choisi parmi tous les peuples, c'est Pessah, c'est la construction d'Israël. Venatananou et Torato. Maintenant le Vav. Ça veut dire quoi ce Vav?
V, c'est E.
C'est E, c'est le Chibour, c'est la connexion. Il n'y a pas Pessah sans Shavuot, il n'y a pas Shavuot sans Pessah, ça va ensemble. Non. Toi, tu t'imagines sans Neshama? Que corps? Que gouffre? Non. Ton gouffre et la Neshama, ils sont béyahad, ils sont ensemble. Nachon? Maintenant, si tu as Pessah sans Shavuot, c'est un problème. Tu n'es que sur l'amazé, mais tu n'as pas de Neshama. Tu es comme un animal. De notre côté, si tu n'as que la Neshama, tu n'as pas de corps, tu es comme un shindalet, un démon. Nous, qu'est-ce qu'on est? Le ribour entre les deux. On est le lien qui existe entre les deux. Donc, Pessah et Shavuot, c'est ensemble. À quel écart qu'on est obligé de connecter ensemble, on compte le Homer. Sfirat à Homer, c'est justement pour pouvoir lier les deux. S'attacher à Pessah et à Shavuot. Lier les deux. Mais tu as Yom Atzmaout et Yom Yerushalayim, c'est la même chose. Yom Atzmaout et Yom Yerushalayim, c'est la même chose. Yom Atzmaout, c'est le Pessah contemporain, Yom Yerushalayim, ça aurait dû être comme Shavuot, mais ça n'a pas marché. Et là, je vous explique. Ça a marché, c'est un début, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Yom Yerushalayim n'est fêté par presque personne. Ce n'est pas un jour de congé, les gens ne connaissent pas l'importance de ce jour, etc., etc., etc. Yom Yerushalayim, c'est la neshama de Yom Ha'atzmaut. Yom Yerushalayim, c'est la neshama de Yom Ha'atzmaut. Si une personne, elle fête Yom Ha'atzmaut, elle est contente d'avoir la fête, etc., etc. Si, donc c'est clair, on doit être content. Comme on doit être content à Pessah, à Géoula, sauf on sort dans la galoute, sauf on retourne dans notre pays, on doit être heureux. Mais la neshama, elle vient expliquer pourquoi tu dois être une nation. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait âme. Ça, c'est à Shavuot. Et le Rav Kook qui va dire, Machir Ben Yosef, c'est celui qui va construire le cadre de la nation d'Israël. Machir Ben David, c'est celui qui va emmener le but spirituel, la richesse spirituelle, de pourquoi nous sommes âme Hachem, peuple d'Hachem. Ça, c'est le message spirituel d'Israël. C'est la Torah, c'est la prophétie, c'est les mitzvot, etc. Ça, c'est ce que vient emmener le Machir Ben David. On est une nation de Torah. On est la nation de Torah. Est-ce que vous avez des questions? Eve, tu as l'air d'aller avoir beaucoup de questions.
Moi, non, pas du tout.
C'est-à-dire? Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, c'est comme le gouffre et la Neshama. Malheureusement, on fête plus Yom Ha'atzmaut que Yom Yerushalayim. Parce que la Neshama, on a du mal à l'itraber, on a du mal à s'attacher. Le Rav Kook dit, Yosef Gematria, c'est pas lui qui dit ça, mais c'est Yadoua, mais il dit que Yosef Gematria, Sion, c'est 156, c'est la même Gematria que Sion. Sion, c'est Sion. Alors, Sion, c'est, on dit, Eretz Israël, mais c'est aussi Yerushalayim, il l'appelait Sion. Maintenant, regardez, il dit, Yosef, c'est Sion. C'est tout le processus de la Tzionout. Mais la Tzionout, c'est quoi? C'est reconstruire le corps d'Israël, le corps de la nation d'Israël. Et donc, le Rav nous dit qu'il faut en inventer un nouveau mouvement. Comment on va l'appeler ce mouvement?
Le sionisme.
Le sionisme, non. Il dit qu'il faut dépasser le sionisme et il va appeler le nouveau mouvement.
David.
Presque. Puisqu'on parle de Yerushalayim, il y a Tzion et Yerushalayim. Il y a deux noms à Jérusalem, et Tzion et Yerushalayim. Il dit la Tzionout, premier mouvement, c'est Machir Ben Yosef. Le deuxième mouvement, Machir Ben David, il s'appelle comment? Yom Ha'atzmaut, c'est Yerushalayim. Comment tu dis? Yerushalmiut. La Yerushalmiut. D'arriver à Yerushalayim. Alors, il ne va pas vraiment l'appeler Yerushalmiut, il va l'appeler Degel Yerushalayim, le drapeau de Jérusalem. Et on va le voir que de quelle manière il va commencer à parler de ça, à mettre comme centralité le retour en Eretz Israël. Le retour à Jérusalem. Pas seulement en Eretz Israël, mais à Jérusalem. Et il va renouveler, vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, tous les jours, tous les Juifs, trois fois par an, les Shlosh et Regalim, les Juifs, ils retournaient à Yerushalayim. Tous les Juifs de toute Israël, ils montaient à Jérusalem pour Pessah, Shavuot et Sukkot. Et le Rav Kook, en 1928, il va renouveler ce minhag-là. Vous voulez voir? Vous voulez voir ou pas?
Oui.
Vous allez tomber de votre chaise, faites attention. Parce que moi, je suis tombé de ma chaise quand je l'ai vu ça. Mon regard. Vous voyez l'image ou pas?
Attends. Oui.
Ah, zut. Non, c'est pas ça. Deux secondes. Deux. On va voir. C'est pas ça non plus. Makara là, comment ça se fait que c'est... Ah voilà. Attendez, 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 une seconde. Est-ce que vous voyez là?
Oui.
Qu'est-ce qui a marqué?
Pessar.
Pessar Velagba Omer.
Bien fait, moi. Pessar Velagba Omer à travers un film de l'été en Eretz Israël, le printemps en Eretz Israël 1928. Le renouvellement de la coutume de monter à pied à Jérusalem en 1928, de Pessar 1928.
המנהג העתיק של עלייה לרגל מתחדש.
ויהיה רב קוק לה?
בחצר גדולה במרכז ירושלים, נאסף קהל רב לה...
Alors, vous voyez, déjà là, déjà vous voyez, attendez, que le Machon Moral ne vous a pas menti, il existait, le Rav Kook, si vous aviez des doutes. Vous ne savez pas. Regardez, j'ai montré ça aux enfants, ils m'ont dit, waouh,
המנהג העתיק של עלייה לרגל מתחדש. בחצר גדולה במרכז ירושלים נאסף קהל רב להאזין לדברי הרב קוק, אשר נאם בנאום יפה שתורה וחוכמה שימשו בו בערבוביה. אחרי החלק הנגינתי קם מנחם מוסישקין. המון רב קידם אותו במחיאות כפיים סוערות. בנאום נפלא הציג את רעיון שחרור האדמה. משם פנה הקהל ללכת אל הכותל. בדרך נוספו רבים עד שעלה מספר פרם ל-4,000 איש. כנהר גדול זרם הקהל בסדר ובמשטר אל הכותל המערבי בשירת ייבנה המקדש.
וואו. מניפיק. שכפה של אורווה אני מתרגש. חזק.
מזמור איתי ורמור אפי?
לא, מזמור איתי ורמור כמנו. וזה ג'מאת הפסר שבות לסוכות הג'רוזלם? תשובה להביא איליל. ידי רבנים, לכל רבנים בישראל. Et tu es à la place du Cardo, la place de la Chorva, la grande synagogue qu'ils ont reconstruite. Et tu vas à pied jusqu'au Kotel.
Ah oui, oui.
Mais avant, en Israël, oui, ils allaient à pied, à chameau, etc. C'est allié à la Régel, c'est monter à pied, dans le sens de monter à Jérusalem. Vous savez? Maintenant, pourquoi? Parce qu'il dit, à quoi ça sert? C'est pas quoi ça sert. Il y a une valeur à la Tzionut. Mais lui, déjà... je vous dis, en 1928, ça c'est déjà très avancé. Lui, c'est fou parce que là, on le voit parler, etc. Il va mourir en 33. Dans 5 ans, il meurt là. C'est-à-dire dans le film, par rapport au film qu'on voit. Là, il est le grand rabbin de Jérusalem. Il est le grand rabbin d'Israël. Non, c'est vrai, il est le grand rabbin d'Israël à Jérusalem. Et il parle de quoi? Qu'on doit dépasser le mouvement sioniste. Maintenant, quelle est la force, justement, de son mouvement, qu'est-ce qu'il veut exactement faire, c'est d'abord voir la force, la particularité de Jérusalem. Alors, on va voir les micro-rotes. Est-ce qu'on peut monter les sources? Il y a très peu de films. Je crois qu'il y a 3-4 films comme ça du Rav Kook, où on voit le Rav Kook comme ça. Sinon, très peu de films. On le voit bien, quoi, c'est marrant. Mmh. Attendez 2 secondes, c'est... Ok, alors regardez. Au numéro 2, vous voyez la source numéro 2? C'est tiré de la Gemara Chagiga dans le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi. Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, Rabbi Yoshua, fils de Lévi, dit Yerushalayim. Alors, il cite un pasouk qui dit Yerushalayim abnouya keir chez Khubrala Yardav. Yerushalayim qui est construite comme la ville chez Khubrala Yardav. C'est quoi la ville chez Khubrala Yardav? La ville qui unifie ensemble. C'est-à-dire, la ville de Jérusalem, elle unifie les gens. Et de là, la Gemara, le Talmud dit, « Ir shei osa kol Israël chavirim » La ville qui fait d'Israël tous des amis. Alors, kol Israël chavirim, ça veut dire aussi des sages, c'est-à-dire, chavir. Mais là, dans le sens simple, Yerushalayim, c'est la ville qui unifie le Ham Israël. qui fait que le peuple d'Israël y soit tous mechoubarim, tous ravirim, tous connectés. Ça, c'est la puissance de Yerushalayim. Moi, je veux comprendre c'est quoi cette importance-là du shalom, de la hava, et comme nous, comment nous, dans notre vie, on peut arriver à ça. C'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'arriver à ça, vu le nombre de problèmes de shalom entre nous, de machloket entre nous, surtout dans ces périodes, tu vois, les périodes de Yom HaTzmaout, les gens qui sont d'accord, les gens qui ne sont pas d'accord. Je ne sais pas si c'est les filles, c'est pareil, mais les garçons, c'est très difficile entre leurs copains. L'une est étudiante cette yeshiva, l'autre est étudiante cette yeshiva. C'est-à-dire, il faut faire très attention de permettre, oui, la machloket, la discussion, le désaccord au niveau des pensées, mais ne jamais toucher à un écoutat ahava, au point d'amour entre l'âme Israël. Alors, pour pouvoir arriver à ça, on va étudier qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu dit, tout ça. On va voir aussi le Tanya, très connu. On y va. Ici, vous avez au Makor 6, Vaikra Perek Yutet. Perek Yutet, dans Sefer Vaikra, Vaikra, c'est appelé Torah de Kohanim, c'est appelé le livre des prêtres. Pourquoi ? Parce qu'on va parler des korbanot, des sacrifices. On va parler de tout ce qui est en rapport avec les Kohanim, mais pas seulement des Kohanim, puisqu'il y a plein de mitzvot qui nous concernent, nous qui ne sommes pas Kohanim. Alors, regardez les plusieurs halachot. L'oteler rachil be'amecha. Allez, ça veut dire quoi ? L'oteler rachil be'amecha.
Rachil.
C'est quoi, rachil ? L'oteler rachil be'amecha, c'est-à-dire tu n'as pas le droit, tu n'iras pas colporter dans ton peuple. C'est quoi colporter ? C'est dire du lashon hara. Maintenant, donnez-moi, Dina, donne-moi la gdara du lashon hara. C'est quoi lashon hara ? Ok.
Je dois dire ce que c'est ?
Ouais. Ah, mais t'es là, ben, tu vois.
Oui, je suis là. Lashon hara, voilà. Quoi ?
Des élèves, pas toi, des élèves garçons, où ils mettent. Ils sont pas là, quoi, mais ils sont là. T'as compris le truc ? J'ai dit, en fait, il est pas là. Après, je t'envoie sur WhatsApp, j'ai dit, mais où t'étais ? Et je suis là. Oui, mais où là ? Qui sont ? Bon, Rachel, alors qu'est-ce que c'est que la chanara ?
La chanara, c'est parler mal de quelqu'un dans son dos.
Nahon. C'est émettre ou shaker ?
Ben, ça peut être les deux.
Ça peut être les deux. Alors, pour ça que j'ai posé la question, c'est que du émettre. La chanara, c'est que du émettre. C'est que de la vérité. Bon, je dis, c'est vrai. C'est que du émettre. Marquez que la chanara, c'est dire du mal, dire la vérité sur une personne, mais une vérité qui est mauvaise à dire. Une mauvaise vérité à dire. C'est que la chose que tu vas dire, c'est une mauvaise chose sur la personne, mais c'est vrai. Ça, c'est du lashon hara. Le mensonge sur quelqu'un, ça s'appelle motzi shemra, qui fait un mauvais nom à la personne. Ça, c'est une chose qui est totalement fausse. C'est bien ? Il y a des choses qui sont vraies, et c'est mal, et tu n'as pas le droit de raconter, c'est lashon hara. Les choses qui sont fausses, c'est motzi shemra. Maintenant, rachil, c'est une personne qui, non seulement il va dire du lashon hara à une personne, mais il va aller chercher les gens pour leur raconter du lashon hara. Par exemple, dans les réseaux sociaux, si une personne commence à dire du mal de quelqu'un, même si c'est vrai, étant donné que ça va à l'itbarsem de Holmakom, alors peut-être c'est digne de rachil be'amecha. C'est-à-dire, tu colportes, tu t'inquiètes de façon à ce que cette mauvaise chose arrive chez les autres. Maintenant, est-ce qu'on a le droit, quand est-ce qu'on a le droit de dire lashon hara, et ça ne s'appelle plus du lashon hara, c'est quand c'est yeshto elet, il y a une utilité. Par exemple, tu connais une copine qui a fait des choses graves et qui maintenant elle va avoir un chidour avec un bachour. Tu sais que cette fille elle a fait des choses très graves. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles le rav du bachour,
oui.
Et tu vas lui dire, regardez, moi je ne sais pas trop comment dire ça au bachour, mais il faut qu'il sache que cette fille elle a fait ça et ça. Ça, c'est du lashon hara ou pas ? Alors, c'est pas du lashon hara. C'est-à-dire, c'est une grande mitzvah.
Mais si à chaque fois on fait ça, la fille, elle va jamais se marier.
Ça se fait pas.
C'est, on peut pas faire ça.
Vous rigolez, là ? Viens, viens, en fait. Moi, je connais que des filles tzadikot. Par contre, les Bachorim, je connais des sadikot, sadikim. Ok, si tu as un garçon sadique, c'est-à-dire, ben, c'est pas du tout de la chonara. Prévenir que cette personne, elle n'est pas apte à se marier. Si moi, je connais sur un élève, je donne un exemple. Moi, je connais un élève, c'est-à-dire, qui a de gros problèmes. C'est-à-dire, il n'avéra de laisser la chose passer sans prévenir la personne.
Oui, mais c'est à chaque fois on fait ça. Et ben après,
qu'elle fasse chouva, qu'elle change. Oui. Autre part, je ne parle pas. Attends, Slicha. Je ne parle pas d'une personne qui fait chouva et qui. Elle, c'est une fille qui tombe tout le temps dans cette faute-là. L'Oda, c'est une fille, je ne peux pas dire un truc comme ça. Un garçon qui est coléreux. Tu connais un garçon coléreux? Qui s'énerve, qui est capdan, qui est prise de tête, qui est en colère tout le temps.
Ça alors quoi, tous les garçons coléreux ne vont jamais se marier? Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui va aller dire...
Non, moi, mon exemple, mon expérience personnelle, c'est que des fois, tu arrives trop tard. C'est que la fille, elle est déjà amoureuse. Alors là, c'est... ça. Il y a des cas, je suis tombé de ma chaise. J'ai prévenu certaines personnes pour des choses qui sont très graves. Mais la fille, elle était déjà amoureuse. Donc, elle a dit, non, mais avec moi, il n'est pas comme ça. C'est faux ce que vous dites. Bon, après, vous voyez, c'est un peu dur. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils arrivent à se marier. Les gens qui arrivent à manipuler. Maintenant, est-ce que nous, on a le devoir de prévenir quand c'est des dangers? Alors, je te dis, autre pam. C'est pas, tu vas dire, ta copine, elle s'est disputée avec toi, donc tu vas la dénoncer à tous les chidourines, elle m'a fait ça, mes trucs, ça sourd. Pas de ça. Pas un gros problème. Par exemple, un truc où tout le monde va être d'accord. Tu sais que la fille, elle est maniaque dépressive. Grave maladie. Grave maladie. Ou une personne, phrase de chez l'homme, elle est schizophrène, mais mamache, quoi, une vraie. Elle n'a pas dénoncé ça. Elle n'a pas dit. Non. Ah, schizophrène peut-être, mais maniaco-dépressif, si elle prend ses médicaments, tout se passe bien. Sauf le jour où il y a des problèmes. Mais tout se passe bien, tu ne vas pas dénoncer ça. Mais là, tu vas dénoncer. Ce n'est pas dénoncer, c'est mettre au courant. Déjà qu'elle n'ait pas dit ça, c'est très grave. C'est vrai. Mais non, autre part, moi je vous conseille de ne pas dire ça directement, d'aller voir le rav, et lui après c'est son problème, de s'occuper de comment dire. En plus, toi, des fois, quand tu dis quelque chose, tu rajoutes. Donc, il faut faire attention. C'est clair qu'on doit dire. C'est vrai. Il y a Manilo Mévin, quoi, votre réaction là. Si elle est mauvaise, si ma mâche signifie qu'il y a des gros problèmes nafshit, ben, il faut pas prévenir. Vous allez laisser se marier?
Non, mais c'est...
Je n'ai pas dit des problèmes, tu l'aimes pas cette fille, parce qu'elle n'est pas sympa. Lui, peut-être qu'il va te trouver sympa. Il va trouver comme sa mère, elle ressemble à sa mère. Alors, il va se marier avec elle. Mais si c'est une fille qui est mamache qui a un problème, c'est mamache problématique, sans donner des détails, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut prévenir. C'est-à-dire, mais ça, hein, donc ça ne sera pas du lachonara. À partir du moment où il y a toilette, à partir du moment où il y a l'utilité qu'on sache, alors ça sort du cadre du lachonara. Lachonara, c'est mamache dire du mal, on n'a pas besoin de savoir. C'est-à-dire, lachonara, c'est. On va dire. Hein, c'est le journaliste, par exemple. Le journaliste, il peut dire beaucoup de la chose. Il va raconter des histoires, mais il n'y a rien à faire, qui nous rien à faire dans ça. Non, non. Vous savez le nom, le joli nom qu'on a donné au Lashon Hara, c'est Zéchou et Tibour la date. Le droit du Tibour de savoir. Le droit de tout le monde de savoir. Qui c'est qui a permis une chose comme ça? Le droit de tout le monde de savoir ce qui t'a permis. C'est Biyou Lashon Hara. Il y a du mal qui est fait. Et tu parles à des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas besoin de ça, hein, de savoir. Qui c'est qui t'a permis une chose comme ça? Donc, c'est très, très difficile. Maintenant, dans le même passouk, vous allez m'expliquer, dans le même passouk qu'on dit tu n'as pas le droit de comporter du lachon hara, des choses mauvaises, alors, regardez qu'est-ce qui est dit. L'otahamod aldam re'echa. C'est quoi l'otahamod aldam re'echa?
Ne te lève pas devant le sang.
Ne te tiens pas debout sur le sang de ton prochain, ani Hachem. C'est ton ami Ani Hachem. Je suis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Lota Amod Aldam Re'echa? Qu'est-ce que ça veut dire?
Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres.
Alors, l'Ota Amod, ça vous rappelle quoi, l'Ota Amod? C'est quoi? Amida. Amida, c'est se tenir debout. D'accord? Se tenir debout. On tient debout. On tient debout comme les anges. Les anges, ils se tiennent debout devant un Kadosh Baruch Hu. Mais là, tu tiens debout. C'est-à-dire? Sur le sang de ton voisin. C'est quoi? C'est quelle situation? Les Khamim nous disent quand le sang de ton voisin, une personne, tu diras, quand ton voisin est en, ton voisin, ton ami est en danger, tu dois le sauver. Ils traduisent comme ça. Tu ne dois pas rester indifférent lorsque le sang de ton voisin coule. Ça, c'est l'Ota Amod al Dam Re'echa. Qui c'est qui traduit cet amendement de respecter l'Ota Amod al Dam Re'echa? C'est nos soldats. Tous nos soldats, ils réalisent le commandement de l'Ota Amod al Dam Re'echa. Du fait qu'ils nous défendent dans notre pays, et qu'ils nous permettent de vivre, etc., qu'ils nous protègent, c'est réaliser le commandement de « tu ne dois pas rester indifférent » lorsque le sang de ton prochain coule. Maintenant, quel rapport avec ce verset-là? Quel rapport avec ce verset-là? Le début du verset, c'est « dis pas du lashon hara à tout le monde », d'aller de l'un à l'autre pour pouvoir dire du mal d'autrui. « Lo talmod al dam re'echa ani Hashem » ne reste pas indifférent lorsque le sang de ton voisin coule, de ton prochain coule. Quel rapport? Le début du verset, là.
Bah, dire du lashon hara, ça peut engendrer que quelqu'un y souffre.
Alors, pire que ça, dire du lashon hara sur quelqu'un, c'est le tuer. Tu as tué la personne, au sens figuré, mais c'est considéré comme quelque chose de très grave. Tu as tué la personne. Tu l'as tué aux yeux de ses amis, tu l'as tué aux yeux de la société. Tu ne l'as pas choisi de tuer. Maintenant, toi qui entends ça, c'est-à-dire Rachel, c'est-à-dire que la personne, elle vient, elle te raconte ça. Toi, tu ne dois pas rester indifférent quand on fait du lashon hara sur quelqu'un. Il faut défendre la personne. Je vous donne un exemple. Vous allez mettre en place sur les réseaux sociaux un mécanisme qui permet de tout de suite empêcher de dire mal sur quelqu'un. Il y a un enfant sur lequel on va dire du mal et une personne, pardon. Une personne qui va dire du mal. Et il y a un mécanisme comme ça qui reconnaît, qui sait lire, qui sait traduire et qui comprend et qui va empêcher la diffusion de choses mauvaises sur un tel. Vous réalisez la mitzvah de Lo Talmod al Dam Re'echa. Tu ne restes pas indifférent quand le sang de ton ami coule. Voilà. Donc, on a une responsabilité énorme de protéger toute personne par rapport au lashon hara. C'est-à-dire, pas juste moi, je n'ai pas le droit d'écouter, mais empêcher que le lashon hara se diffuse. Et c'est très dur. Pourquoi? Parce que est-ce que tu peux être propriétaire d'un journal? Est-ce que quand tu vas être propriétaire d'un journal, tu vois le lashon hara dans ce journal? Tout. Est-ce que parmi vous, il va y avoir peut-être des journalistes, des écrivains, etc. C'est très dur d'écrire. Faites attention à ce qu'on crie, ce qu'on dit, ce qu'on raconte, etc. Quand tu lâches la et le fait est de, tu verses le sang de ton ami. Maintenant, la Torah elle continue dans ce même kibbutz, dans cette même direction, et elle dit « L'otisna est achichab. » Tu ne dois pas avoir de à ton frère dans ton cœur. Ochear tochiar et amitecha. Velotissa la vraie. C'est quoi ochear toch? Faire des remontrances à ton amitecha. C'est ami. Amitecha, c'est amit. Amitecha, ton ami. Velotissa la vraie. Il ne portera pas la faute. Là, on y va. D'abord, interdiction d'avoir de la sina. C'est quoi la sina? C'est avoir de la haine. Je joue, truc très simple. Interdiction de cela. Avali a marqué bilvavecha. Dans ton cœur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu as une haine particulière. Tu n'as pas le droit de le garder dans ton cœur. Comment tu fais pour l'enlever de ton cœur? C'est très simple. Elle a marché sur ton lit, okay, ou elle a pris ta serviette. Elle, je sais pas moi, elle sort elle a besoin de s'essuyer ses mains. Elle prend ta serviette. Et toi, tu ne supportes pas ça. C'est-à-dire, l'otisna est achotra bilvavecha. Tu ne dois pas avoir de la haine bilvavecha. Tu ne dois pas avoir de la haine de ta sœur, bilvaver, dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais alors?
Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en fous.
Tu t'en fous, c'est facile. Si pour toi c'est facile, c'est sévère. Mais une autre solution, c'est garde pas ça dans ton cœur, dis-lui. Dis-lui, tu sais que ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup que tu t'essuies sur ma serviette. Moi, je ne supporte pas. Moi. J'ai ma serviette, c'est ma serviette. Ça me dérange, si tu veux, je t'offre une serviette, c'est contre ton anniversaire. Ou même avant, pour la fête des sœurs, je t'offre une serviette, tu la touches pas. C'est bien. Mais ce que dit la Torah, c'est d'abord de rien garder dans le cœur, de rien garder, de se manger. Tu fais des choses, mais de l'intérieur, tu te bouffes. Là, l'autisme est interdiction de garder la sina dans la. Tu as le droit de le dire dans la bouche, la sina. Mais tu dois parler, pas mal. Maintenant, fais des remontrances à ton ami. L'autre, il ne va pas être comme ça, il ne fera plus de faute. Ça veut dire quoi? Qu'on a une mitzvah de faire des remontrances aux gens. Ne tiens pas comme ça, fais pas comme si. Tu as fait ça, c'est pas bien. Pourquoi tu dis ça, c'est pas bien. Pourquoi tu as fait ça, c'est pas bien. Pourquoi tu te comportes pas comme ça, c'est pas bien. Ce caractère que tu as, il n'est pas bien. Ces avérotes que tu as faites, tu as fait 1, 2, 3, 4 avérotes. Quand est-ce que tu vas t'arrêter de faire des avérotes? Ça, c'est mitzvah torrecha, une mitzvah de remontrance. La Torah, elle te dit, ochrea torrecha et tamitecha. Tu fais des remontrances, tu feras des remontrances à ton ami. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord?
Mais on n'a pas le droit de rappeler les avérotes aux gens.
Non, tu n'as pas le droit de rappeler une fois qu'il a fait tchouva. Tu fais du mal. Levana, pourquoi tu n'es pas d'accord?
Parce que le rabaisser tout le temps, ça ne sert à rien.
Ok, il a fait. Levana dit, la fin du verset, il y a marqué, l'otissa à la frette. Le but, c'est qu'il ne fasse plus de fautes. Qu'il ne fasse plus de fautes. Or, si tu le rabaisses tout le temps, est-ce qu'il va changer? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ochriar, tochriar? Ça vous rappelle quel mot, tochriar? Comme je vous dis, tochriar, c'est une remontrance. Ochriar, c'est faire des remontrances. Tochriar, fait des remontrances. Mais quel mot ça vous rappelle aussi? Quel verbe ça vous rappelle? Léochriar. Léochriar, une ochacha. C'est quoi une ochacha? Tu rigoles?
On ne fait plus d'oulpan en fait.
Ah, tu ne fais plus d'oulpan. Ok, mais il faut faire l'oulpan. Ochacha, ouais. C'est quoi ochacha?
Je ne sais pas.
Une preuve. Quelque chose, c'est prouver quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Ça veut dire quoi?
À chaque fois que tu fais une remontrance, ben il faut avoir la capacité de prouver qu'elle a vraiment fait.
Ok, il a fait. Il faut lui prouver. Et tellement tu as prouvé qu'il va changer. C'est une remontrance où tu lui prouves le mal. Tu lui montres clairement. Bien. Il y a mon fils qui fait de la peinture. Vous voyez sur le mur, on a deux trucs. Moi, je suis en train de voir. Je dis, mais c'est quoi ce truc de fou là? Vous voyez la peinture du fond là? Il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient me voir et il fait, ah bah, je t'ai fait un tuyau magnifique. Je dis, ouais. Il me fait, ça va te faire plaisir. Tu vois, c'est quoi? Il me montre, il a fait la tour Eiffel. Ribono, je suis là. Comment ça fait une chose comme ça? C'est-à-dire, il veut faire plaisir à son père. Ah bah, je t'ai fait la tour Eiffel. Non, regardez où est-ce qu'il a mis. Il a mis la tour Eiffel à côté de la foule. Mais non, tu es obligé de le mettre. En plus, tu vas pas lui dire, mais quoi, est-ce que j'en ai à faire la tour Eiffel? De quoi tu me parles? En plus, de descendre de la tour Eiffel. Madame Dabert, elle était contente. Là, t'achèves. Maintenant, qu'est-ce que. Ria, c'est-à-dire, il faut prouver le mal. Il faut arriver à prouver le mal. Et je répète ce que Levana a dit. Si c'est pas clair et que grâce à ça, il va changer, alors, tishteki, tais-toi. Est-ce que ce que veut dire exactement le Rav Etzraïm? Je comprends que Levana a dit le Rav. Le Rav Etzraïm, il dit interdiction de faire des remontrances. Personne n'est capable de faire des remontrances aujourd'hui dans notre génération. Et ça, c'est un leçon de vie. Il donne trois conditions pour faire des tochachot. Allez, première condition.
Mais déjà de nous, pas le faire.
De quoi?
Bah déjà de nous être.
Enfin, de pas faire la faute. Alors, ça peut-être s'exprime dans la première condition. C'est quoi la première condition? C'est que si tu fais une tochacha, que tu la fasses que pour le bien d'autrui. que ma mâche, tu penses à faire, à lui faire du bien. Les tovato, pour son bien, lui, pas lui faire du bien, pour son bien, lui. Quand tu vois une personne qui est, tu fais de la peine. Tu dis, attends, il va aller pas malade. Donc, toi, sois naquis. Parce que des fois, quand on fait de Torahot, on veut dire, moi, j'ai raison, toi, t'as tort. D'accord ? Mais non, t'en as rien à faire. Tu sais que t'as raison, qu'il faut pas fumer. Tu vois une personne qui fume, tu dis, ouais, qu'est-ce que tu fais là ? C'est-à-dire ? Ou une personne qui ne veut pas monter en Eretz Israël. Toi, t'en Eretz Israël, etc., etc. Tu veux l'aider pour lui dire, maintenant, tu vas rester en France. Qu'est-ce que tu fais en France ? Qu'est-ce que tu vas faire ici ? Deuxième, non, c'est pire. La deuxième, c'est que l'autre sait que ce que tu lui dis, c'est que pour son bien. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'il soit convaincu que ce que tu es en train de lui dire, ça soit que pour son bien. Alors ça, c'est... D'arriver à ça, c'est très, très difficile. Pourquoi ? Parce que la personne, pour se justifier, tout le temps, il y a un mécanisme intérieur pour pouvoir rester fort, il y a une personne qui va se justifier de ce qu'il fait. Il va trouver pourquoi c'est bien ce qu'il fait, pourquoi il n'a pas tort, pourquoi il est best-seller, etc. Il va donner toutes les raisons pour dire qu'il est best-seller, que moi je suis best-seller. Moi j'ai raison de faire ça. Maintenant, vient la troisième condition. Donc la première, que moi je fais ça pour les taux. Deuxième, que lui fait ça pour les taux. Il sache que je fais ça pour son bien. La troisième, c'est qu'on est sûr que quand il va entendre ça, il va le faire. Ce que disait Levana. Il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse. Si tu n'es pas sûr qu'il fasse, laisse tomber. Et je donne un exemple. Cet exemple-là, c'est la seule condition pour pouvoir faire une torécha. Il y a une personne qui se balade. Et lorsqu'il se balade, il voit Shimon. Son copain Shimon. Et Shimon, qu'est-ce qui se passe ? Il sort de la raquette, il sort du train et il tombe de sa poche, il tombe son portefeuille. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis ? Shimon, arnak shelcha. Tu dis, hey, Shimon, ton portefeuille. Autre part, je fais ça pourquoi ? Que pour son bien. J'ai aucun intérêt, c'est pas, je ne vais rien gagner à ça. Shimon, quand il entend ça, il sait que tu fais ça que pour son bien. Le troisième, est-ce que Shimon il va lever le portefeuille, oui ou non ?
Oui.
Bête.
C'est pas une remontrance.
C'est une remontrance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un massacre. Il l'a pas fait exprès. Il l'a pas fait exprès. Et c'est passé. Lui il doit réparer. C'est une situation manquante. C'est un manque. Et lui il doit réparer. C'est dans ce sens-là, remontrance. Il doit réparer quelque chose de mal. Et tu répares ça. Et donc Shimon il va le faire. Il va lui-même dire Toda. Alors, si vous trouvez des situations, des personnes avec qui vous pouvez lui permettre de changer des choses mauvaises qui sont dans sa vie, à la manière de Shimon qui a perdu son porte-monnaie, alors vous avez le droit de faire des torahot. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi le Rav Etzraïm midi interdit de faire des torahot ? Pourquoi ? Parce que la majorité des cas, c'est le cas de ramasse ton portefeuille. La majorité des cas, c'est tu fais pas ça, ça c'est pas bien, etc. etc. Donc, je vais raconter l'histoire d'il y a 25 ans. 25 ans, j'étais situé chez Rav Zuckerman. Et on était le matin, le mercredi matin, on est en cours de Gemara. Pendant le cours de Gemara, il y a un élève, un ami à moi, Yaakov, il prend une pièce de 10 agourotes, il la met dans sa bouche. C'est-à-dire, c'est bien ça ou c'est pas bien ?
Ouais, c'est bien.
C'est pas bien, pourquoi c'est pas bien ?
Il peut s'étouffer.
Il peut s'étouffer, ok. Bon, il a quand même 18 ans, c'est-à-dire.
C'est ça, pas pour mettre dans la bouche.
Bien fait. La Gemara a dit ce que tu dis. Ah, oui. C'est une pièce qui a été touchée par tout le monde. C'est ça, tu ne peux pas le mettre dans la bouche. Non, je me pose toujours la question comment c'est que la Gemara est obligée de nous dire ça, parce que c'est pas shoot. Okay. C'est les gestes, comme ils ont appelé ça en France, les gestes.
Barrière.
Barrière. Ah là là, la France, elle a la Baruch Hashem, elle a la Chorma pour la parole. C'est vrai? Les gestes barrières. Donc, c'est des gestes barrières, tu ne mettras pas. Il disait gros truc. Maintenant, le Rav Zuckerman, il voit ça. Il lui fait une remontrance. Il dit, mais tu sais pas que la Gemara, elle dit ça ? Tu sais pas, c'est sourd de faire un truc comme ça ? Mon copain, il tout de suite, il retire froid dans la salle. Lo Naïm, de recevoir une remontrance de son rave, waouh, en plus du rave Zuckerman, il vaut mieux que le ciel s'ouvre, un éclair te tombe dessus, ça fait moins mal. Le rave Zuckerman, il te fait Razak. Ça, c'est mercredi, il est midi 20, midi 25. Mercredi matin, mercredi à midi. Le soir, il est 22h25. Okay, donc, 10 heures après, ce sont tes cours. Je suis dans un cours du rave Zuckerman où je n'avais pas trop le droit d'aller, mais j'allais, je me mettais à. De côté, derrière une poutre, personne ne voyait, c'était chez lui à la maison, Shalom l'Israël. Et j'écoutais le cours. Alors qu'est-ce qu'il fait? J'ai répété ce qu'il a dit durant tout le cours. C'est-à-dire ce que je vous ai dit, là, c'est ce que Lord Zuckerman a dit, ce même 25 ans, ce même mercredi. Et il rajoute, et donc les élèves, ils sont révoltés, parce que c'est des élèves plus gentils que vous. Ils se commencent à crier contre le rave, ils disent, mais non, on peut faire des tochachot. Il dit, interdiction de faire des tochachot, on a le droit, interdiction de faire une tochacha. À une personne. On n'est plus du niveau. Le Hafetz Chaim, c'est lui qui fixe les lois au niveau du langage. Et lui, il a fixé que personne ne pouvait faire une toraha. Et il commence à discuter contre les élèves. Les élèves ne sont pas d'accord avec lui. Lui, il répond, etc., etc. Et à un moment donné, ça ne m'est pas venu tout de suite. Mais je me suis rappelé que 10 heures plus tôt, ce même Rav qui est en train de parler, de dire qu'il y a interdiction de faire des torahot, alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a 10 heures plus tôt, il a fait une torecha. Il a fait une remontrance. Donc, comment c'est possible une chose comme ça? Au moment, je vous dis qu'au moment où j'ai pensé à ça, tout de suite, le rab, il s'est tourné vers moi et il a dit, sauf le rab à son élève. Sauf le rab à son élève. Pourquoi c'est comme ça? Le rab à son élève, c'est comme ça parce que le rab, c'est-à-dire, l'élève, il est venu étudier chez le Rav pour pouvoir qu'il lui fasse des torahot.
Ben oui,
pour pouvoir qu'il l'amène vers le droit chemin. Et là, alors, comme il a dit, Rav à son élève, s'il y a une proximité entre le Rav et l'élève, Zeb Sader. Les parents et les enfants, si les parents, ils ont une bonne relation avec leurs enfants, et leurs enfants, ils ne sont pas assez idiots pour penser que ce que disent les parents, c'est pour faire du mal à leurs enfants. Alors, les parents aussi ont le droit de faire des torahot. Et une amie proche. C'est quoi une amie proche? Une amie avec laquelle je fais tout pour pouvoir m'élever, avancer, etc. Par exemple, tu fais Nagui, du sport avec une amie. C'est-à-dire, tu fais du sport, tu cours avec elle, tu fais du sport, je sais moi. Et elle va te dire, non, il faut respirer de cette manière, etc. C'est aussi une remontrance. Et toi, tu es avec elle et elle est avec toi pour pouvoir avancer dans le sport. Alors, tu as le droit. Ou une personne, tu as ravouté avec qui tu étudies la Torah, tu veux comprendre. Alors, c'est sûr, tu veux dire, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Elle est intéressée que tu lui dises, pour justement avancer, pour pouvoir apprendre et comprendre, et pas se tromper. Donc, c'est des conditions très, très réduites. Mais, dans tous les autres cas, bien sûr, il sera totalement interdit de faire des remontrances. Parce que si ça n'éveille pas la personne, et l'homme n'est pas éveillé, lorsque tu lui dis, à ta l'obéceder, c'est pas bien. Quand on dit à quelqu'un, t'es pas bécéder, alors, la personne, il y a un automatisme d'Afka à four. Il va essayer d'expliquer pourquoi, même si c'est du mal, c'est bécédère ce qu'il fait. Donc, pour pouvoir éviter, comme on dit, il s'enfonce encore plus, alors on va devoir faire très attention quand on parle à autrui, surtout quand une personne, elle n'est pas proche de nous, à quel écart de comprendre le fait de réparer son mal. Et on finit par une histoire. Le Rav Kook. Bravo que vous avez vu. Quand il était à Yafo, la communauté, elle était allée le voir. Ils lui ont dit, Rav, c'était Shabbat. Il a dit, Shmuel le cordonnier a ouvert son magasin Shabbat. Et toute la communauté a dit, on va aller le voir, on va le crier dessus, on va lui dire que c'est pas bien, etc., etc. Le Rav Kook, il dit, on va aller le voir, mais ce que je fais, exactement ce que je vais faire, vous le faites. Les gens de la communauté disent « Ouais, super, on y va tous. » Donc, toute la Beta Knesset du Rav Kook à Yafo se déplace vers le centre-ville de Yafo où se trouve le magasin de Shmuel. Shmuel le cordonnier, il voit en face de lui toute la Beta Knesset venir vers son magasin. Ils vont avoir peur. Et le Rav Kook de se présenter devant lui et lui dit « Shmuel, Shabbat, Shalom. » Avec un grand sourire. Et il part. Derrière lui, tous les gens de la communauté s'étaient engagés à faire exactement ce que Laura a fait. Alors lui aussi, il dit Shabbat Shalom. Et le deuxième, Shabbat Shalom. Et le troisième, Shabbat Shalom. Et toute la communauté passe devant Shmuel pour dire Shabbat Shalom. Le mot c'est Shabbat. On frappe à la porte du Rav Kook. Qui frappe? Shmuel. Shmuel, il frappe. Et quand il frappe à la porte du Rav, il commence à pleurer. Il lui dit, moi, j'ai ouvert le magasin parce que j'ai des grosses dettes et pour sauver ma famille, etc. J'étais obligé d'ouvrir le Shabbat. Le Rav Kook de lui dire, c'est pas une bracha, c'est pas une bénédiction pour ta famille d'ouvrir le magasin Shabbat. Si tu veux vraiment aider ta famille, si tu veux vraiment aider le peuple d'Israël, alors c'est en respectant le Shabbat. Mais t'inquiète pas, nous on est une communauté, on va venir en aide, on va te venir en aide, de façon à ce que tu vas pouvoir les hit par les. Donc de voir une personne, il ne va pas commencer à dire du mal, dire mais pourquoi tu ne fais pas Shabbat, Shabbat, etc., etc. Et là au contraire, éveiller la personne, l'hit Raber d'abord. Parce qu'il y a marqué Amitecha. Amitecha, c'est la Gemara dit Imcha b'mizvot, celui qui est avec toi dans les mizvot. D'abord de sentir le chibou. Quand une personne est très, 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 très proche, même le Rav Kook était proche de tout le monde, même lui, il ne s'est pas permis de faire des tochachot. Et là, comme Aaron à Cohen, il se présentait devant les gens, il leur disait Shalom. Et la personne disait waouh, si Aaron, il savait le quart de ce que je faisais comme mal, jamais il ne dirait Shalom de cette façon. Et pour pouvoir, tellement il avait honte, cette honte-là dans la personne, lorsqu'il voyait Aaron à Cohen, l'éveillait et lui faisait faire teshuva. Ça, c'est le derrière, la façon comment la génération elle doit changer. Ce n'est pas avec des cris, ce n'est pas avec des contraintes, c'est be'avutot ahava, avec des chaînes de ahava, d'amour. Alors, faire la différence, c'est-à-dire ne pas laisser, bon, ça va, ce n'est pas très grave. Le Rav Kook, il n'a pas dit, ce n'est pas grave que Shmuel il a ouvert son magasin Shabbat. Il fait une action. Il agit. Il n'a pas dit, bon, ce n'est pas grave, je vais dire des Tehillim. On va dire, ouais, c'est très triste que Shmuel ouvre son magasin Shabbat. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Non, il a agi, mais où voilà, pour elle, mitor Shalom. Mais il agissait dans le Shalom. C'est ça? Est-ce que vous avez des questions, Mahonora? D'accord. Maintenant, le Mahonora, il va en contradiction avec un Midrash. Qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash, il dit Asara Kabim, Shel Sira Yardula Ola. 10 volumes de discussion, de paroles, sont descendus dans ce monde. Tisha Kabim, il y a 9 volumes, ils ont été donnés à la femme, et un volume à l'homme. Mais là, vous contredisez le Midrash. C'est-à-dire? Ok. Vous ne voulez pas montrer que le Midrash a raison, que la parole, elle appartient plus à la femme qu'à l'homme? Ça ne vous motive pas? Bon, je prie qu'on se reste de ces zooms là, parce que moi, ça m'a pris la tête.
C'était clair.
Oui, c'était clair.
C'est clair. D'accord. Alors, c'est clair. C'est-à-dire? À la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Merci.
Vous avez des nouvelles là? Quand est-ce que vous rentrez ou toujours pas?
Toujours pas.
Toujours pas. Mais moi, je pense bientôt.
Quoi?
Bientôt. Bientôt.
Mais il y a du nouveau en France? Ils peuvent. Non, en fait, pour l'instant, c'est Israël qui bloque. Enfin.
Ouais. Mais c'est surtout que le séminaire, il réouvre pas.
Le séminaire, il ne rouvre pas?
Non, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ils nous disent que c'est trop compliqué.
Regarde, aujourd'hui, moi, je viens de recevoir d'abord les Israéliens, Jean-Marc-Henri, ils ont ouvert des capsules de 26 élèves. Mais c'est très, très dur parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir de l'étage où ils se trouvent pendant 14 jours. C'est très, très dur. Mais aujourd'hui, il y a une réunion avec le gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'on fait des yeshivot et comment ça va se passer. Ça, c'est un premier point hein, par rapport aux gens qui sont déjà en Israël. Mais ceux qui sont en France, pour les ramener en Israël, c'est problématique. Kiren, tu ne peux pas avoir des pistons par tes grands-parents?
Mais il n'y a pas de pistons, il n'y a pas d'avion.
Ah, il n'y a pas d'avion?
Mais il y a des avions, mais il y en a un tous les... Enfin, c'est hyper compliqué, genre les escales de ce...
Et avant de prendre les avions, il faut faire des demandes au
consulat. Il faut que je rentre et que je fasse 14 jours de bidou.
Non, ça, si tu rentres et tu fais 14 jours de bidou, ça va. Mais Il ne laisse pas rentrer, c'est ça le problème.
Bah, il faut faire la c'est demande.
Beaucoup faire une demande. Comme j'ai que le visa et pas le passeport, il faut.
Ah, si tu fais la demande, tu peux être accepté?
Bah, tu peux, mais c'est compliqué pour l'instant. Ils sont toujours en train de dire non, beaucoup, beaucoup.
Ça, c'est Israël, Ron?
Ouais.
Alors, peut-être ça peut se débloquer, quoi. Mais ça, ils essayent de débloquer ça, justement. Parce que tous ceux qui ont un visa d'étudiant peuvent.
Oui, ça, ils l'ont déjà, enfin, ils ont déjà annoncé ça. Mais il faut quand même faire la demande.
Oui. Même moi, pour faire la vie, il faut que j'aille en Israël. Et c'est hyper compliqué, là, parce que plus j'attends, plus ça va être...
Voilà, c'est... Voyatif. Bon, mais ça, t'es cher, qu'on ait de bonnes nouvelles et qu'on se revoie dans d'autres conditions.
Amen.
Bon,
Amen.
Bon,
Amen.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.